donner une voix à celles qui n'en ont pas. Un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonjour, bonjour, bienvenue et merci d'écouter Campus Paris. Moni au micro dans l'émission « Donner une voix à celles qui n'en ont pas ». Celles qui n'en ont pas, ce sont les femmes déficientes visuelles, des femmes maltraitées, malmenées. Cette émission a pour but de leur apporter aide et conseils. Et aujourd'hui, je suis entourée de notre amie Claire. Claire, bonjour.
Bonjour Moni, bonjour à tous.
Bonjour Claire, je suis ravie que tu sois parmi nous. Claire, tu nous communiqueras les numéros importants, les numéros à connaître par cœur. Voilà, en cas de détresse, c'est des numéros que vous pourrez composer. Eh ben, je compte sur toi, Claire, tout
à l'heure. Pas de soucis.
Merci, merci. J'ai oublié de vous présenter notre ami Thomas. Pardon, Thomas. C'est, accessoirement, si l'émission a lieu, c'est grâce à lui.
Bonjour, Moni.
Bonjour, Thomas. Thomas Belalfaoui, qui réalise l'émission. Sans lui, ben, il n'y a pas d'émission. Et surtout aussi, les auditeurs. Sans auditeurs, il n'y a pas d'émission du tout. Donc, continuez à nous écouter, à écouter Campus Paris, donner une voix à celles qui n'en ont pas. Et j'accueille un invité que j'aime beaucoup, hein, soyons clairs. Ainsi que lui et son épouse, c'est Julien Coffinet et Isabelle Coffinet. Ce sont deux personnes, bon, il va se décrire plus particulièrement, mais ce sont deux personnes que j'aime beaucoup, des personnes qui mènent des actions auprès des valides, mais aussi auprès des personnes handicapées en France et à l'étranger. Voyez, on ne peut pas faire plus. Hein. Julien, bonjour.
Bonjour Moni.
Comment vas-tu, Julien ?
Ça va bien. Merci.
Bon, je t'ai bien mis la pression, là.
Ouais.
Alors, Julien, parle-nous un peu de toi, d'Isabelle.
Ouais.
Voilà.
Ok. Bah, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver là. Et voilà, je ne sais pas qui est en face, là, toi qui m'écoutes. oui, moi, je m'appelle Julien. Tu m'as présenté. Donc, Julien, je suis marié à Isabelle. On est pasteurs tous les deux. Pasteur de l'église protestante et on travaille tous les deux avec d'autres personnes dans une petite équipe dans une association qui s'appelle la Fondation La Cause.
À Poissy,
Carrière sous Poissy pour être exact. Voilà, et donc du coup c'est une vieille association qui date de 1920, qui a eu le temps de faire plein de choses en fait et qui a gardé, avec le temps, elle a gardé plein de missions différentes. Donc c'est pour ça que voilà, on est connus dans divers lieux de l'associatif.
Oui, oui.
Ouais.
Oui, oui, vous êtes connu pour avoir mené beaucoup d'actions, et encore aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Et voilà, vous vous êtes occupé notamment, bon, plus aujourd'hui, mais pendant très longtemps, de l'adoption.
Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment une mission historique. C'était la question de l'enfance vulnérable. Et donc, d'abord à travers l'adoption. Donc, 1920, j'ai dit. Hein, donc, on est après la Première Guerre mondiale, avec beaucoup d'enfants orphelins en France. Donc, il y a eu une énorme activité d'adoption en France. C'est la plus vieille œuvre d'adoption en France, en fait, la cause. Et ensuite, après la France, ça a été l'adoption à l'international. Voilà, beaucoup Corée du Sud, puis après Madagascar, un peu Haïti aussi, enfin différents pays comme ça. Et là, c'est une mission qu'on a arrêtée vraiment très récemment, l'adoption.
Et on reviendra sur l'étranger dans la deuxième partie, hein, pour voir quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui à l'étranger, parce que c'est tout aussi important de ce qui se passe en France.
Hein,
il faut voir au-delà de le petit bout de son nez. Non, mais c'est vrai, c'est pas péjoratif, c'est juste pour dire que voilà, c'est important aussi de mener des actions en dehors de notre pays. Dans notre pays, c'est bien, mais ailleurs aussi, c'est important. Hein. Et donc en France, en tout cas, vous menez des actions. En fait, vous menez des actions auprès du grand public, c'est-à-dire que les auditeurs là de Campus Paris, les étudiants qui nous écoutent, ils peuvent aussi venir à votre asso, puisque vous avez une branche célibataire, solo.
Ouais.
Alors oui, tu peux nous vous pouvez.
Bien sûr. Ouais, en fait, c'est un grand pôle qu'on a avec les célibataires, les couples et les familles. Et du coup, la philosophie de ce pôle, en fait, c'est vraiment de créer des espaces de communion, de rompre des solitudes, de parler aussi de détresses qui sont parfois un petit peu cachées, un peu invisibilisées, tu vois. Pour les célibataires, c'est parfois, il y a de la grosse solitude. Alors là, les étudiants de Paris, ils sont dans une ville énorme. mais où en fait on peut se faire prendre dans l'anonymat d'une ville absolument énorme. C'est vrai qu'à la base, 1920, tu vois, c'est né plutôt dans les milieux ruraux, avec l'exode rural, des gens qui se retrouvaient seuls, des agriculteurs qui se retrouvaient seuls. Et donc, du coup, ce pôle sur les célibataires, c'est de dire, parfois, il fallait donner un coup de pouce. C'était avant les applications de rencontres et tout ça, c'est tout ça. Oui. Et puis, des occasions
mais
de rencontres.
Mais ça a toujours... Les séjours, vous faites des séjours,
séjours
de vacances.
Ouais,
vous allez à Venise, on va faire un petit coucou à Nicole et Alain, qui ont mené la cause pendant de nombreuses années, qui sont aussi pasteurs. J'avais entendu dire qu'à une période, ils avaient amené les célibataires à Venise. Rien ne vous arrête.
Non, rien. Et en fait, tu vois, c'est vraiment l'idée de faire des espaces de rencontres qui sont à la fois des espaces, des occasions possibles pour faire des rencontres amoureuses, mais c'est pas obligatoire. Oui. Et ça veut dire que c'est aussi des espaces où des personnes qui n'ont pas ce désir-là peuvent tout simplement rompre la solitude.
Passer des vacances,
ils
peuvent passer un jour de l'an. Tous ces moments où les célibs sont seuls, ou les solos, comme on dit aujourd'hui, sont seuls, et ben c'est des moments qu'ils peuvent partager avec les autres. Je pense à je sais plus si c'est à Noël ou pas, mais en tout cas au jour de l'an, oui.
Exactement.
Voilà, passer un jour de l'an avec des gens accueillants, chaleureux, ça fait chaud au cœur, quoi, plutôt que de rester, de passer le énième jour de l'an seul. Voilà, on peut faire avec, on peut avoir suffisamment de richesse intérieure pour passer toutes ces fêtes seules, mais les partager avec les autres, c'est enrichissant aussi.
Exactement, c'est ça. Ouais.
Et puis c'est souvent dans des beaux décors.
On essaye.
Oui. Donc voilà, là c'est pour les auditeurs, vraiment le grand public de Campus Paris, tous les étudiants. Voilà, ça sachez que si vous êtes seul pendant ces fêtes ou si vous avez ou pendant les vacances, vous pouvez aller sur le site de la cause pour rencontrer. Vous pouvez rencontrer des gens puisque les célibs se rencontrent aussi par région pour partager des choses, des soirées, des...
Oui, en fait, tout ce qui favorise la rencontre, en fait, tout ce qui favorise de décloisonner un peu.
Alors, si on n'est pas croyant, c'est grave, docteur?
Parce qu'en fait, c'est des espaces où, en fait...
C'est très accueillant.
Oui, c'est très accueillant et on est de toute façon toujours dans une diversité de foi, de croyances. Et donc, c'est vrai que c'est aussi pensé comme des occasions pour pouvoir en parler, pour pouvoir échanger, partager. Et donc, plus il y a de diversité, plus c'est riche. Tant qu'on est OK pour réfléchir ensemble, se poser des questions.
Oui. C'est ça qui est important de savoir aussi pour ces séjours-là, c'est que c'est aussi des séjours où on apprend, où on s'interroge, on se pose des questions. On n'est pas là que pour recruter.
Non, on n'est pas focus sur le célibat, tu vois, c'est pas le sujet central du séjour. C'est juste l'occasion, quoi.
Voilà. En tout cas, moi, je peux vous dire, pour en avoir fait quelques-uns, pour vous livrer un peu de ma vie privée, c'est des séjours fantastiques. Vraiment, on en ressort enrichi. Et j'ai des souvenirs encore merveilleux de jours de l'an que j'ai passé à la cause en vacances pendant cette période de jours de l'an. On va tout de suite, si tu veux bien, Julien, peut-être aborder les... Donc ça, c'est pour les femmes, donc toutes les femmes, toutes les étudiantes, toutes... Mais pourquoi les femmes? Qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis tellement focus sur les femmes que du coup, je vois que des femmes partout. Bon, ça change un peu. D'habitude, c'est les mecs qui ont toujours le monopole. C'est bien aussi qu'on finisse par oublier un peu les mecs, mais bon, c'est pas très chic. En fait, c'est un lieu qui accueille toute personne qui a envie de partager des moments avec les autres. Et je peux vous garantir que c'est vraiment des lieux dans le partage. Parce que souvent, je sais pour travailler dans divers domaines, souvent on brandit cette idée de partage et les lieux où on est, ça n'a rien d'un partage. Et pour autant, la cause, c'est vraiment ça. Vraiment, tout le monde vient, comme chez McDo, vient avec ce qu'ils sont, quoi.
Exactement.
Excusez-moi pour la référence. Donc maintenant, si tu veux bien, donc vous pouvez aller sur le site, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site de la cause. On vous donnera tous les numéros de téléphone et les renseignements tout à l'heure. Julien, on peut aborder les femmes, les personnes déficientes visuelles. Vous vous occupez en France. Vous vous occupez aussi des des femmes, des personnes déficientes visuelles. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que des pasteurs, alors avant vous, vous poursuivez cette démarche, mais avant vous, c'était Alain et Nicole qui ont lancé ça à l'origine. Hein.
Alors je crois que ça les a précédés eux-mêmes.
Ouais,
je crois que c'est vraiment une très vieille activité de la cause. Pareil, hein, c'est les temps de guerre qu'ont provoqué aussi beaucoup de prise de conscience sur la question du handicap en France. Voilà, et donc aux origines, il y a vraiment le, parce que la cause, il y a un fondement spirituel hein, dans cette
sûr.
Association
oui.
et une
oui,
prise de...
vous êtes pasteur donc
bien sûr et donc une prise de conscience que les aveugles n'avaient pas la Bible, n'avaient pas accès à la Bible.
Et ça, donc, c'est par la foi finalement que vous êtes
exactement voilà. C'est la base, ça a été le premier livre, ça a été la Bible, la mise à disposition de la Bible en
voilà.
braille.
Aujourd'hui tout ça c'est fini hein. les non-voyants sont informatisés, ils ont leur Bible dans leur portable ou dans leur ordi, mais à l'origine il n'y avait absolument rien pour permettre aux déficients visuels d'accéder à la Bible.
Ouais, c'est ça. Alors, après, aujourd'hui, dans notre réseau, il y en a qui tiennent vraiment encore beaucoup au braille.
Ah oui, bien sûr. Les anciennes générations, voilà, et même ceux de notre âge qui ont une culture du braille, eh bien, ils continuent de lire en braille couramment.
Ouais, c'est ça. Puis bon, avec cette envie de pouvoir accéder directement. Enfin, il y a même une militance hein, sur le braille, mais tu sais bien, il y a même une militance sur le braille. Vraiment, ils tiennent à ce qu'on continue. Là, par exemple, tu vois, je pars la semaine prochaine en séjour adapté au handicap visuel. Mmh. Et là, il y a une sœur, elle m'appelle au téléphone tout le temps. Elle me dit, j'espère qu'il y aura des choses en braille. Hein. J'ai pas intérêt à oublier. Hein, parce que si je lui sors que de la synthèse vocale ou que de l'audio, elle va pas être contente. Hein,
Et c'est curieux. Le braille, c'est, même pour les valides, c'est quelque chose d'assez curieux. C'est quelque chose qui renvoie à quelque chose de positif. C'est très curieux, cette écriture.
Mais tu vois, ce qui est marrant avec le braille aussi, c'est que je pense que les ceux qui lisent le braille, ils ont un truc que les voyants ne connaissent pas. Moi, si j'ai pas marqué ma référence au stylo sur la feuille de braille, je suis cuit. Hein.
Bah oui, bien sûr, c'est un apprentissage, le braille. Merci, Julien. On va revenir tout de suite sur la cause et sur tout ce que met en place la cause, tout ce que fait la cause en France et à l'étranger. Pour l'heure, on va donner, Claire, si tu veux bien, donner les numéros de téléphone qui peuvent apporter aide et conseils aux femmes qui nous écoutent. Handicapés ou non, du reste. Et on fera une pause musicale juste après.
D'accord, très bien. Maltraitance, personnes handicapées ou âgées. Un numéro d'écoute est à votre disposition pour avertir d'une maltraitance à l'encontre d'une personne vulnérable, âgée ou handicapée. Composez le 3977. Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, a pour objet de promouvoir la place des femmes handicapées. Elle lutte contre la discrimination, la maltraitance et les violences qui touchent les femmes en situation de handicap. Composez le 01 45 66 63 97. Écoute violence femmes handicapées. Composez le 01 40 47 06 06. SOS Amitié. Si vous traversez une période difficile et si vous ressentez le besoin d'être entendu et écouté dans votre souffrance, une équipe de bénévoles est à votre écoute 24 heures sur 24. Composez le 09 72 39 40 50. Et pour la Fondation La Cause, vous pouvez composer le 01 39 70 60 52.
Voilà. Et là, je me tourne vers Thomas Bellel-Faoui, qui va nous faire écouter quelque chose.
Tout de suite. Merci, Moni. Oui, tout de suite, pour la pause musicale, on va écouter Mon handicap de Grégoire.
Merci, Thomas.
Mon handicap, c'est pas mes jambes, même si je boite, même si elles tremblent. Et ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas de ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle délire, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma faim ni mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour voulu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal, qui me fait mal.
C'était Mon handicap de Grégoire.
Donner une voix à celles qui n'en ont pas, un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Et tout de suite, Moni, je te repasse la parole.
Merci, merci Thomas. Oh là là, je suis tout émue, c'est touchant, je ne connaissais pas. Oh là là, tu nous fais découvrir de ces musiques de fou. Franchement, merci, merci Thomas, merci infiniment pour tout, pour l'émission, pour ta gentillesse, ta présence, merci pour tout. Arrêtez, arrêtez.
un plaisir.
C'est vraiment une joie de travailler avec toi, vraiment. Ça nous touche beaucoup, toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors, Thomas, je vais arrêter de te faire des compliments. Pas trop pour les garçons. on va revenir. J'accueille aujourd'hui Julien Coffinet de l'association La Cause qui mène des actions auprès de tout public, mais aussi auprès de femmes déficientes visuelles en France et d'enfants handicapés à l'étranger. Alors Thomas, on va peut-être conclure pour la question des personnes déficientes visuelles en France dont vous vous occupez. Si vous avez des choses à rajouter. Et on va aborder après les enfants dont vous vous occupez, déficients visuels dont vous vous occupez à l'étranger.
Ouais, écoute, pour la France, on a déjà dit sur le braille et sur tout ce qui est en fait la mise à disposition de la littérature à travers maintenant plutôt l'audio, hein, comme tu disais.
Ouais.
Plutôt l'audio, mais le braille est encore là, puis tous les séjours et toutes les occasions de rencontres aussi, et quand même j'insiste aussi sur le fait que on fait connaître le handicap visuel aussi à tous, voilà. Et ça, c'est une action qui est qui est belle parce que en fait mettre des gens en relation, tu vois, quand on fait les séjours, et ben à chaque fois on essaie de mettre d'apérer quelqu'un qui voit pas, et en fait le fait de se balader ensemble, ça veut dire qu'il faut décrire l'environnement, ça veut dire qu'on voit autrement les choses, ça veut dire qu'en fait on apprend à ressentir autrement, même. Ça, c'est quand on se promène quelque part, quand on va dans un musée et qu'il faut chercher un autre type de d'appréhension du monde. Et ben en fait c'est hyper riche pour quelqu'un qui voit de se promener au rythme de quelqu'un qui ne voit pas et d'essayer de voir avec son cœur quelque chose de différent. C'est hyper riche. Et donc ça aussi c'est quelque chose que qui se passe dans le giron de nos activités, en fait, quelque part.
Oui, oui, oui. Ouais. Et puis l'inverse, hein, sachez que l'inverse aussi existe, c'est-à-dire qu'en ayant quelqu'un qui vous décrit les choses, pas trop parce que ça peut être saoulant, mais quelqu'un qui vous décrit les choses, il devient vos yeux.
Ouais. Ah ouais.
Il devient plus que ça parce que c'est lui qui déclenche l'imaginaire, en fait. Voilà. Et bon, il ne faut pas oublier aussi, ça c'est important, c'est que quand on est déficient visuel, on n'est pas juste déficient visuel à faire du braille, c'est pas ça la vie. Hein. Être déficient visuel, ça veut dire que ce sont des personnes quand même qui sont amenées parfois, malgré elles, à être isolées. Hein. On parlait d'isolement tout à l'heure des célibataires. La déficience visuelle, c'est quelque chose qui isole. Donc le fait que Julien, vous créez ces séjours, etc., ça les ouvre, ça nous ouvre aux autres, ça nous... Progressivement, on peut... Moi, j'ai commencé comme ça, les auditeurs sauront que je suis non-voyante. Ça nous ouvre aux autres, mais au point que maintenant, moi, je pars seule en vacances, vous voyez. Ouais. Mais ça peut être possible que si, dans les premiers pas, ben, on tombe sur des gens bienveillants, sur des gens...
Et tu vois...
Et puis aussi, il faut aussi qu'on sente que ça apporte à l'autre. Hein. Il ne s'agit pas... Parce que moi, je comprendrais les auditeurs de Campus Paris qui se disent « Attends, mais moi, je ne vais pas passer mon temps à trimballer un non-voyant. » Et il aurait raison. Parce que c'est pas ça, c'est plus que ça.
Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, dans la terminologie, tu vois, dans nos séjours, moi, j'essaie de quitter le côté... Enfin, tu vois, il n'y a pas les bénévoles et les aveugles. C'est pas ça. On part en séjour ensemble, on part en vacances ensemble. Et il se fait que parmi nous... Un tel marche pas, l'autre voit pas. Et puis, voilà, chacun son...
Oui, oui. Comme ça peut se produire en club, hein, moi, je suis partie en club il n'y a pas très longtemps, eh ben, il y avait 2-3 personnes handicapées, des époux ou des épouses, voilà, dans leur famille, ils étaient en vacances. Quoi, voilà.
Ouais, exactement, donc on part tous ensemble. Je dirais quand même que quand on part comme ça dans des grands séjours, là je rebascule plutôt sur les séjours qui sont solo, c'est-à-dire qui ne sont pas adaptés ou handicapés visuels, quand on a parmi nous des handicapés visuels dans ces séjours-là, en fait il y a un truc qui est apporté aussi, c'est que le handicap visuel, c'est un handicap visible par les autres. Les autres voient qu'il y en a un qui voit pas. Et en fait, ça change aussi la tonalité du séjour, puisqu'en fait, après, il y a plein de gens qui portent des handicaps visibles ou invisibles.
Absolument.
Et en fait, ça met la fragilité, la vulnérabilité quelque part au cœur de notre séjour, puisqu'en fait on l'est tous, d'une manière différente.
Voilà, et même sans l'être, les gens osent dire, bah oui, tu sais, moi j'ai eu un frère, j'ai une sœur ou une maman. Les gens osent se livrer, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Il n'existe aucune famille, aucune histoire où il n'y a pas de faille. On a tous grandi avec des failles, on a fait avec, et sauf que la déficience visuelle, bah, elle se voit.
Oui, puis on en a tous chacun, et ou alors on en aura tous une, enfin tu vois, c'est...
Voilà, Julien, je vais te couper parce que je voudrais qu'on garde du temps pour parler des enfants, de ce que vous faites à l'international.
Ouais, tu disais tout à l'heure en début d'émission que On était finalement la France à l'extérieur, tout ça c'est aussi important quelque part, voilà. Et c'est vrai qu'en fait nous notre fondement aussi spirituel fait que quelque part la seule chose qui différencie notre action en France de notre action à l'étranger, c'est en fait, il y a que la question administrative, presque le statutaire, juridique, mais d'un point de vue des personnes, en fait, un enfant en Haïti ou un enfant en France,
bien sûr.
C'est toujours un enfant, voilà. Et donc il y a absolument aucune différence, si ce n'est voilà, c'est cette question de qu'est-ce qu'on peut faire avec une asso française, qu'est-ce qu'on peut faire en France, qu'est-ce qu'on peut se faire à l'étranger. Mmh. Ouais. Du coup, notre action à l'étranger, en fait, elle est dans cette continuité de cette attention
Afrique,
pour l'enfance vulnérable qu'on avait avec l'adoption, puisque au départ c'était vraiment les orphelins de France, les orphelins d'après-guerre, puis les situations tragiques, voilà, d'abandon d'enfants, tout ça, qui nous a mené en fait vers l'adoption internationale, hein, dans l'histoire de notre association. Dans l'histoire de l'adoption internationale, avec une baisse du nombre d'adoptions internationales dans le monde, dans le monde occidental, mais par contre une explosion des besoins et du nombre d'orphelins dans plein de pays pauvres ou après des guerres, voilà, dans le monde. Et donc du coup, il y a un moment donné où même quand on a arrêté l'adoption internationale, en fait, et même quand on continue, quand on était encore dedans, mais en fait, des orphelins, il y en avait 1000 fois plus que des enfants à adopter. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé une action de parrainage, d'aide humanitaire et de parrainage, avec vraiment des centres habilités par leur pays, hein, donc c'est-à-dire vraiment travaillant avec le ministère de la Justice ou de la population de leur pays, et des enfants placés sous ordonnance de garde, vivant dans des structures sociales, comme celles qu'il y avait en France à la moitié du XXe siècle. Voilà, il y en a plein à Madagascar, en Haïti, au Togo, au Cameroun, enfin partout ailleurs évidemment, mais c'est là qu'on est implanté. Togo, Haïti, Madagascar et Cameroun, on suit des centres comme ça qui ont des enfants orphelins abandonnés et qui leur donnent une espérance, un avenir.
Et qui sont entre autres déficients visuels ou qui sont tout handicap confondu?
Alors ça dépend, tout handicap confondu dans la majorité des pays, et au Cameroun, un centre assez merveilleux, franchement, je dois dire. C'est un centre qui s'appelle le Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun, et c'est une structure qui a maintenant 30 ans, qui a été montée de toutes pièces à la force du poignet, et puis de l'intelligence.
Et que vous avez mené, que vous soutenez,
c'est pas du tout nous qui avons créé, c'est deux personnes aveugles qui sont Coco Bertin et Martin Luther, deux Camerounais aveugles qui ont fait eux-mêmes l'Institut des jeunes aveugles au Cameroun, et qui ensuite ont démarré ce centre, mais vraiment en commençant par héberger des enfants dans leur propre foyer, puis en faisant grossir une structure qui aujourd'hui, donc c'est une grosse école primaire avec 400 enfants, dont 100 à besoins spécifiques, une majorité d'aveugles parmi les 100, mais il y a d'autres handicaps qui se cumulent parfois.
Des polyhandicaps.
Ouais, c'est ça. Un institut de formation pour les enseignants, avec une attention à l'inclusion pour ces enseignants, leur apprendre tout de suite en fait au démarrage de leurs études comment ils peuvent prendre en charge des enfants avec des troubles du spectre autistique, des enfants aveugles, voilà.
Qu'est-ce que vous leur permettez finalement à ces enfants, et on va bientôt s'arrêter, qu'est-ce que l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants?
En fait, cette école marche super bien. Donc, on n'a même pas besoin d'aider cette école. Par contre, on aide le foyer de cette école, qui représente 18, peut-être maintenant, je crois qu'ils sont à 20 enfants, et qui sont, eux, les enfants, déficients visuels, parfois polyhandicapés, qui sont abandonnés, en fait, très, très jeunes. On a des histoires terribles, des enfants qui... Tu as un enfant aveugle qui se retrouve un jour devant le portail du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, et des adultes qui arrivent, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas où je suis. C'est mon oncle ou c'est ma mère qui m'a laissé. Il ne sait pas où il est. Et en fait, voilà, ce foyer, il est là. Et c'est ce foyer qu'on soutient parce que c'est évidemment la partie la plus déficitaire de ce centre-là. Des enfants abandonnés qui coûtent cher. Évidemment, ils coûtent cher. Et donc, c'est des enfants qui sont sacrifiés.
Voilà. Écoute, on peut difficilement s'arrêter là, comme ça, alors qu'on aborde le cœur du sujet. D'autant que j'aurais aimé que tu nous racontes très rapidement l'histoire d'un étudiant qui a fini par faire médecine, parce que c'est aussi ça la cause, c'est vous accompagner aussi des enfants dans leurs études. Et ce que je te propose, Julien, c'est de te réinviter avec Thomas. On va essayer de contacter tes camarades du Cameroun et de poursuivre cette conversation pour parler des enfants.
C'est une super idée et je pense que c'est un témoignage que tu vas qui fera vraiment beaucoup de bien à tes auditeurs. C'est à la fois lourd, c'est dur, c'est lourd, c'est grave, et en même temps de voir la force de vie de personnes dans ce centre là ça va leur apporter de la vie.
Mais Campus Paris, sincèrement, c'est des gens courageux, des gens qui ouvrent leurs portes, leur cœur à l'autre, et je pense qu'ils seront ravis de t'entendre et d'entendre ton collaborateur là-bas en Afrique. Merci infiniment,
merci à toi, Moni.
Julien, pour d'être venu nous parler des adultes, des enfants. Je te remercie du fond du cœur pour ta présence et le rendez-vous est pris pour une prochaine fois. Claire, on va redonner tout de suite les numéros. On peut donner tous les numéros pour venir en aide aux femmes, et notamment aux femmes déficientes visuelles.
Très bien. Maltraitance, personnes handicapées ou âgées. Un numéro d'écoute est à votre disposition pour avertir d'une maltraitance à l'encontre d'une personne vulnérable, âgée ou handicapée. Composez le 39 77. Association Femmes pour le dire, Femmes pour agir a pour objet de promouvoir la place des femmes handicapées. Elle lutte contre la discrimination ainsi que les maltraitances et les violences qui touchent les femmes en situation de handicap. Composez le 01 45 66 63 97. SOS Amitié. Si vous traversez une période difficile et si vous ressentez le besoin d'être entendu et écouté dans votre souffrance, une équipe de bénévoles est à votre écoute 24 heures sur 24, 09 72 39 40 50. Et pour la Fondation La Cause, composez le 01 39 70 60 52.
Voilà, merci infiniment, Claire, merci Julien, merci à nouveau Claire pour ta présence, merci de nous avoir accompagnés, et je remercie du fond du cœur Thomas Belalfaoui qui a réalisé cette émission. Merci infiniment Thomas, et surtout merci à tous les auditeurs de Campus Paris, et je vous dis à très vite, au revoir.
Donnez une voix à celles qui n'en ont pas. Radio Campus Paris 93.9 FM.